Et de votre côté, vous, Anne-Marie Yvon, regard croisé sur l'univers des samouraïs, vous êtes allé, vous, au Musée de la civilisation à Québec pour voir cette fois les armures, les casques, les armes, les sabres d'une famille de collectionneurs, les Barbier-Muller.
Oui, ça, c'est une célèbre famille dont nous parlera le directeur général du Musée de la civilisation, Michel Côté, dans un instant. Mais tout de suite, suivons la guide dans ce monde mystérieux et fascinant des guerriers du Japon féodal, des hommes qui étaient à la fois féroces et raffinés.
Les cinq casques présentés devant vous sont caractéristiques des quatre premières périodes pendant laquelle les samouraïs ont régné. Les deux à gauche ont été portés entre le 12e et le 14e siècle.
Là, nous sommes en présence de quelque chose d'un peu particulier. Nous sommes en présence de collectionneurs qui s'appellent les Barbier-Muller, qui sont une grande famille de collectionneurs. On sait que les Barbier-Muller ont ouvert un musée célèbre à Genève, mais aussi un à Barcelone. Et donc, c'est la troisième génération de collectionneurs. Là, il y a quelque chose d'un peu particulier. Ce collectionneur vient, comme je vous l'ai expliqué, d'une famille de collectionneurs. Le premier, son grand-père, a acheté d'abord des impressionnistes. Ils sont intéressés aussi à la littérature. Il a développé la collection. Ensuite, son père avait une collection africaine, d'Amérique latine aussi, précolombienne excessivement importante. On retrouve une grande partie de leur collection, d'ailleurs, au musée du Quai Branly à Paris. Et ce fils qui a quitté donc l'Europe pour s'installer aux États-Unis, à Dallas, quand il était jeune, ses parents l'encourageaient beaucoup à développer des collections. Et lui, le premier contact qu'il a eu avec un samouraï, c'était un coup de foudre à 14 ans. Et il a dit, moi, c'est ce que je veux collectionner. Alors, ses parents ont dit, non, c'est pas très pratique. Mais donc, il a commencé plus tard, une fois qu'il a commencé à travailler, qu'il a développé sa propre fortune. Et c'est vrai que cette passion-là était une passion un peu particulière, parce qu'il a cherché, je crois, un créneau aussi spécifique, puisqu'il était d'une grande famille de collectionneurs. Et il s'est intéressé, il a partagé cette passion avec son épouse, d'ailleurs, qui est une Américaine de Dallas. Et ensemble, ils ont développé cette collection petit à petit, en faisant des acquisitions un peu partout en Europe, mais aussi en achetant d'autres collectionneurs pour développer une collection unique. Et donc, ils ont maintenant un musée. Une grande partie de leur collection se retrouve déjà dans des édifices de Dallas, mais ils ont aussi un musée. Et donc, pour nous, c'était une occasion unique de présenter cette collection qui est considérée par plusieurs comme la plus belle collection du monde. Elle était présentée à Paris avant de venir à Québec, cette expo. Tous les titres des journaux, les médias à Paris disaient que c'était effectivement la plus belle collection qu'ils n'avaient jamais vue de samouraïs.
Eboshi, c'est le nom de la forme. Ça rappelle en fait une coiffe qui était portée à la cour de l'empereur. Ça fait des casques qui sont quand même assez hauts.
Alors, c'était assez intéressant parce que l'ambassadeur du Japon qui est venu découvrir cette expo a trouvé que c'était exceptionnel, que c'était une collection effectivement assez unique. Il y a un condensé de périodes. L'ambassadeur connaissait les familles d'où venaient ces armures et même probablement de sa propre famille, je soupçonne. Donc, il y a un intérêt même pour les Japonais qui reconnaissent que c'est quelque chose exceptionnel. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est que nous avons des armures de chevaux, ce qui est absolument unique, ce qui est très rare. Mais un collectionneur a toujours un billet dans le fond, toujours un angle d'attaque qui est son esthétisme particulier. Et on voit bien que le collectionneur a été sensible à la dimension esthétique. Ce qui l'intéressait, au-delà de l'aspect guerrier, au-delà de l'aspect historique, c'est l'utilisation des matériaux, c'est le raffinement des pièces. On sait que les samouraïs n'étaient pas que des guerriers, étaient aussi des êtres cultivés. Hein. C'était aussi souvent des poètes, des écrivains, faisaient la calligraphie. Puisque les samouraïs ont été pendant une période de guerre, mais ont été aussi pendant une longue période de paix. Donc, on voit bien que les armures se sont sophistiquées avec le temps. Et les Barbier-Muller sont intéressés à des armures qui sont d'exception, je dirais, avec un degré de raffinement, de délicatesse, de matériaux, mais aussi de symboles, de lignes qui sont absolument uniques au monde.
J'attire votre attention sur le casque qui se trouve derrière vous, parce que vous aurez peut-être compris en voyant les différents objets que je vous ai présentés que le critère pour M. Gabriel Barbier-Muller et son épouse pour acquérir un objet, c'est sa beauté. Et le coup de cœur de M. Barbier-Muller, le casque, l'objet qu'il préfère parmi tous ses objets, c'est celui-ci. Un casque qui a été influencé par la religion bouddhiste. Les flammes sont une représentation de ce qu'on appelle le joyau de feu. Et ça prend vraiment une très grande technique pour réussir à placer ces flammes de façon à ce qu'elles forment une grande flamme au-dessus du casque.
Les samouraïs, c'est quelle période?
On couvrait 700 ans d'histoire et donc on finit avec la période Edo. On commence au tout début du Japon jusqu'à la réunification. Les samouraïs ont arrêté parce que je vais simplifier en disant que le gouvernement empêchait effectivement les samouraïs d'exister, a retiré les armes. Donc vous avez ça jusqu'à la période Edo. Donc vous avez une longue période historique là. Et qui couvre une grande partie du territoire aussi parce que ce n'était pas concentré uniquement sur une partie géographique. On retrouvait partout au Japon. Donc c'est à la fois territorial et historique.
Je vous ai mentionné que des écoles avaient été fondées. Parce que pour faire une armure, on a besoin de différentes classes d'artisans. Il y en a eu 9 grandes écoles au Japon. Parmi ces 9, une est bien représentée dans la salle. C'est l'école Miyoshin, qui a été fondée dans les années 1600, qui existe encore aujourd'hui, qui appartient toujours à la même famille.
En général, on voit que les samouraïs sont présentés d'une façon assise. Pour la première fois, un musée comme le nôtre a osé les mettre aussi debout, en position debout, et même parfois avec leurs chevaux. Et ça, c'est très particulier, c'est ce qui a surpris même les barbiers Muller, parce qu'ils n'avaient jamais osé faire ce type de muséographie. Évidemment, on leur en a parlé, on a discuté avec eux. Et c'est vrai que M. Barbier Muller a été ébloui lorsqu'il est arrivé devant ces vitrines, parce qu'il les avait jamais vues comme ça.
En 1876, une loi qui va être passée, qui va vraiment sonner le glas de l'ère samouraï, c'est qu'on va interdire aux samouraïs de porter le sabre qui était l'âme du samouraï. Et c'est donc ainsi que se termine l'âge des samouraïs. Et c'est ainsi que se termine notre visite.
Merci à notre guide et à Michel Côté, le directeur général du Musée de la civilisation à Québec.
Et le musée, Raymond, qui sera tout Japon cet été, puisque dès le mois de juin, il y a l'exposition photographique « Rêve des mangas » sur la culture de cette bande dessinée japonaise. Et puis l'expo « Kimono » qui met en évidence des kimonos traditionnels, en plus de toutes sortes d'activités à découvrir, en allant visiter le site web du Musée de la civilisation.
En hyperlien sur le site de Tam Tam, c'est un beau 2-3 jours à Québec, pourquoi pas. Hein?
Oui.
Anne-Marie Yvon, domo arigato, merci beaucoup.
Merci. Raymond.